Et on en est là au point de se demander s'il n'y aurait pas finalement un dialecte ou une langue dyslexique, puisqu'on se rend compte que les dyslexiques travaillent vraiment à partir d'une logique linguistique très particulière, qui est d'abord la langue du ressenti, c'est-à-dire ça ne s'écrit jamais pareil, puisque ça s'écrit en fonction de l'état dans lequel on est. Et puis, le rapport aux conjugaisons est très lié au code culturel que l'on retrouve dans tous les travaux de Clé sur l'art et la culture occidentale, c'est-à-dire le code des couleurs, le code des registres, des fréquences, etc. Et on se rend compte à quel point les codes des conjugaisons sont associés aux dyslexiques, aux codes généraux qui les entourent, et au code des matières, et non pas au présent, au passé, au futur. C'est pour ça qu'on a souvent des dyslexiques qui comprennent très bien les règles, mais qui ne les appliquent jamais. Donc on considère qu'ils n'arrivent pas à appliquer les règles qu'on leur donne, mais parce que les règles qu'on leur donne ne correspondent pas à leur logique linguistique. Et on se rend compte que lorsqu'on laisse un dyslexique écrire avec des fautes, et qu'on lui demande pourquoi il fait ces fautes-là, il a toujours une très bonne explication. C'est-à-dire, s'il écrit la mer avec un S, c'est parce qu'il y a des vagues. S'il écrit l'amour ENT, c'est parce qu'ils ont plusieurs enfants, etc., etc. Cette logique-là n'est pas totalement absurde par rapport à la logique du français qui, parfois, est un peu perdue pour tout le monde, hein, dans certains domaines. Donc, c'est vrai que parfois, on se retrouve finalement face à des rebelles de l'académie, comme dirait Jean, et qui, au moment où ils disent, voilà, moi, j'ai envie d'écrire comme ça, aidez-moi à entrer dans ma structure linguistique, a aidé moi à être moi-même, mais finalement ils ont zéro, ils ont mais tu es paresseux, mais tu vas redoubler, et donc on entre dans le parcours du combattant des parents qui n'en peuvent plus de négocier le passage à chaque fin d'année, si c'est pas déjà au mois d'octobre, hein, d'ailleurs, hein, sans compter les hôpitaux de jour, etc. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu un scandale la dyslexie. C'est à la fois une bonne nouvelle de savoir que la dyslexie n'est pas une maladie, et puis c'est aussi un petit peu un scandale pour lequel je crois qu'il faut tous se mobiliser, dans le sens où c'est un peu la même histoire que les gauchers. Donc il y a 30 ans, les gauchers, on les martyrisait, on les empêchait d'écrire de la main gauche, et donc obligatoirement, quand ils écrivaient de la main droite, ça ne se passait pas très bien. Donc ils prenaient du retard, ils n'arrivaient pas à bien écrire, ils écoutaient moins bien, ils étaient stressés, ils raturaient, donc ils recommençaient, ils étaient lents, ils étaient fatigables, ils étaient du coup caractériels, entre guillemets, etc. Et aujourd'hui, on dit d'un gaucher, globalement, c'est quelqu'un qui écrit de la main gauche. Mais si on fait vraiment un bilan de latéralisation, il peut être gaucher de la main, mais droitier du pied, droitier de l'œil, etc. Or, on dit dyslexique, d'un dyslexique, c'est quelqu'un qui a du mal à apprendre à lire. Évidemment qu'il y a des tas de façons d'être dyslexique. Il y a peut-être une dyslexie par individu, d'ailleurs. Mais je crois qu'avant de considérer vraiment cette particularité comme quelque chose qui va faire avancer l'humain, comme maintenant le ministère de l'Éducation nationale demande à ce que en CP on travaille les deux mains et qu'on travaille l'ambidextrie, je pense que dans 20 ans on apprendra à être dyslexique.
Je vais vous raconter l'histoire une histoire qui a inauguré les recherches sur la dyslexie. C'est rapporté par Huxley. Philippe dînait seul devant son assiette, une demi-bouteille de Bordeaux, et la carafe d'eau soutenait un volume ouvert. Il lisait entre deux bouchées tout en mâchant. Le livre était, le titre du livre, On the Brain, sur le cerveau d'un neurologue qui s'appelait Bastian. Pas très moderne peut-être, mais le meilleur qu'il ait pu trouver dans la bibliothèque de son père pour se distraire dans le train. Au moment du poisson, il en arriva au cas de l'Irlandais qui était atteint de ce qu'on appelle paraphasie, c'est-à-dire un mot pour un autre. Le médecin avait demandé au patient de lire à voix haute un paragraphe sur le statut de Trinity College. Le collège, voici le passage que le patient devait lire. Le collège aura compétence pour faire subir ou non un examen à tout diplômé en vue de son admission à une bourse de recherche comme ils le jugeront bon. Et ce passage, le patient a lu ce que je vais vous dire. Ce que le patient lisait en réalité, vous ne comprendrez pas mieux que moi. Le biotolan là, Quara qua danse pour ferim unirume a tout traité. Danse pour ferim, mustré de tes l'octombre, a nobé ercela, comme leur cul que leur. Merveilleux. Quelle auguste beauté. La richesse et la sonorité de la phrase d'ouverture, il se le répéta plusieurs fois. Et il se dit, je le ferai imprimer sur la page de titre de mon prochain roman. Voilà une chose qui, pour nous, n'a aucun sens, qui est ce qu'on appelle habituellement du charabia, et dans le langage technique des paraphrasies, eh bien, avait revêtu une suprême beauté pour cette personne qui était en fait un aphasie. Et les dyslexiques font des choses qui n'en sont pas loin.
Oui, comme un dyslexique qui a écrit il n'y a pas longtemps « Je t'aime, maman », et c'est écrit « Je danne, mamine ». Et donc sa mère lui a dit, écoute, si tu m'écris comme ça, c'est pas possible. Donc évidemment, maintenant, il est chez le psy. Et donc, lorsqu'ils arrivent à être acceptés avec ce langage-là, c'est-à-dire que quand ils lisent ça et qu'on leur dit, mais c'est magnifique, ce que tu lis, est-ce que tu peux le retranscrire, ce que tu me parles dans ta langue, là, ils commencent à avoir confiance dans leur production. Et lorsqu'ils ont confiance dans leur production, et là, c'est très, très important d'un point de vue psychologique, effectivement, il commence à oser écrire ce qu'il ressent des textes. Alors moi, je vais vous donner un autre exemple d'un texte, d'un poème magnifique qui s'appelle Louis de Jean Métellus, qui est mon poète préféré, hein, c'est comme ça. Alors je vous lis son texte à lui d'abord, et le texte qu'a écrit un jeune enfant inspiré par ce poème, qu'il a écouté 3 fois, juste écouté. Hein. Entre le repos et la lutte, Louis, oui, dresse l'édifice de son filtre, alimente les foyers de la force, le veilleur et le somnambule l'interrogent. Maîtresse du passé, elle suscite la tendresse du père et de la mère. En silence, elle exhale les sensations, souffle vigoureusement où naissent les idées. Elle extrade toutes les influences et mesure tous les cris vibrant à l'approche du son. Son chant réveille les arbres, elle repose, le sommeil dort, les rumeurs des saisons. Et la campagne l'accueille. L'été s'échauffe pour son bonheur. Elle proclame l'unité, tout brûle pour ses délices, le soleil impérieux couronne sa joie. La rosée nourrit les hirondelles et prodigue son suc. L'alouette chante la vie, est une, ainsi parlait la fleur d'essence. Innocence du corps embrassant la vie, explosion d'ombre et de feu, lieux mouvants et triomphants. Donc ça, c'est le texte de Jean. Et donc, Johan, qui avait à l'époque beaucoup d'otite et un problème d'audition, avait choisi ce texte parce qu'il s'agissait justement de Louis. Et il écrit, Louis, il a 12 ans, hein, Johan, quand il écrit ça. Louis de Loi a entendu de la bouche de Louis un oui imprévu. Loi, surprise par ce oui, fit volte-face à Louis qui entenda, grâce à son oui, un drôle de bruit. Loi prit ses jambes à son cou et parta dans les bois en poussant un croa-croa. Surpris, Louis s'exclama et dit « Ouah, reviens là !» Louis de Loi entenda, et Loi trébucha et tomba, et oui, Louis de Loi trahit Loi, et cet acte paniqua Louis qui parla à haute voix. « Mon Loi, entendez-vous cela ?» Cette tragique histoire de Loi de Louis apprend qu'il ne faut jamais paniquer Louis de Loi, surtout quand elle appartient à Louis. Il a 12 ans. Des textes comme ça, on en a plein. On en a plein, mais évidemment, ils ne sortent pas à l'école, puisqu'ils n'ont pas le droit d'écrire en dyslexique. Alors évidemment, même chez Lafont, voyez-vous, ils ont enlevé un drôle de bruit. Ils ont mis un drôle de bruit, parce que c'est des psychoses maniaco-dépressives, les correcteurs. Ils les choisissent en fonction de ça, vous savez, ceux qui... Ils m'ont enlevé toutes les fautes au texte. Donc, il a fallu que je me batte pour remettre les fautes, mais ça, ils l'ont oublié. Donc, voilà, vous voyez, à partir... Ça, c'est toute la richesse d'un dyslexique qui, à partir d'un texte qui le touche vraiment, qui le ressent vraiment, et on ne peut pas dire qu'il n'ait pas compris le texte de Louis, mais il en fait quelque chose où, vraiment, il joue avec le langage, il s'amuse, les conjugaisons, il en fait ce qu'il veut, Et il a 15 aux conjugaisons depuis qu'il a écrit ce texte. Alors qu'avant, il avait zéro. Voilà, c'est pour vous donner un exemple qui est marqué.